présentée ce soir par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Un budget 2021 qui privilégie la relance au détriment de la dette. Le gouvernement veut redonner confiance aux entreprises et aux ménages en injectant 42 milliards d'euros dans l'économie sur un an. Analyse dans un instant de Marie Viennot et zoom sur le budget de la culture avec Anne Lamotte. Les restrictions sanitaires toujours incomprises par les restaurateurs. Certains d'entre eux manifestaient ce matin à Marseille. Des actions se préparent à Toulouse. Pour plus de transparence, le gouvernement a décidé de publier désormais quotidiennement les indicateurs mesurant l'évolution de l'épidémie de Covid-19. Les affrontements se poursuivent dans la région séparatiste du Nagorno-Karabakh. Le président turc réclame la fin de ce qu'il appelle l'occupation arménienne de la région. Nous irons à Istanbul. Et puis la justice espagnole confirme la condamnation de Quim Torra à 1 an et demi d'inéligibilité. Conséquence, le président indépendantiste régional catalan est destitué, ce qui peut entraîner des répercussions politiques majeures. Correspondance de Mathieu de Taillac. Un budget exceptionnel pour faire face à des circonstances exceptionnelles. Le projet de loi de finances pour 2021 a été adopté ce matin en Conseil des ministres. Il est centré sur le plan de relance de 100 milliards annoncé au début du mois, un plan pour améliorer la compétitivité des entreprises, accélérer la transition écologique, avec aussi des mesures de solidarité et de soutien à l'emploi. Malgré les incertitudes liées à la reprise de l'épidémie, le gouvernement table sur un rebond du produit intérieur brut de 8% l'an prochain et il espère effacer d'ici 2 ans, les effets de la crise sanitaire sur l'économie française. Cet après-midi, les ministres des Finances et des Comptes publics ont répondu aux questions des parlementaires de la Commission des Finances qui examineront le texte à partir de la mi-octobre. Bonsoir Marie Viennot.
Bonsoir.
Les réactions sont partagées entre satisfecit des députés En Marche, demande de précision et crainte sur les manques de contrepartie du plan de relance.
Oui, la meilleure tirade revient à Éric Woerth, le président de la Commission des Finances du groupe Les Républicains, qui a démarré son analyse de ce projet de budget par « Nous dansions sur un volcan » les années précédentes. Maintenant, c'est sur des sables mouvants. Ce budget est-il sincère? Ne fait-il pas l'impasse sur des réformes structurelles? Vous ne proposez aucune économie, a déploré Charles de Courson, des centristes, en citant cependant les 2 rares augmentations de recettes prévues par ce projet de loi, mais peu mises en avant dans la communication gouvernementale. Un prélèvement d'1 milliard sur les complémentaires santé et d'1,3 milliard sur Action Logement. Combien pour le plan de relance dès l'an prochain? Son déploiement sera-t-il assez rapide? Combien peut-on attendre de l'Europe pour cette relance? Et quand et pourquoi la contribution française à l'UE augmente de 5 milliards dès l'an prochain? Les questions des députés éclairent donc d'un angle nouveau le projet qui a été présenté ce matin. Pour l'Europe, le gouvernement s'attend à 10 milliards en 2021, 12 en 2022 et le reste après. Sur les 5 milliards de plus au budget, c'est lié au Brexit. Pour le plan de relance, les ministres promettent une mise en œuvre dès maintenant, car certains crédits déjà votés pour les entreprises n'ont pas été dépensés et donc l'argent est directement mobilisable. Enfin, aux députés communistes et France Insoumise qui déploraient que des entreprises en train de licencier puissent bénéficier du plan de relance, ce qui mettrait à mal son objectif de relocalisation. Bruno Le Maire a dit qu'il partageait leur inquiétude, notamment sur les règles inéquitables du commerce international. C'est le génie du Covid, a-t-il souri, lui qui en guérit à peine, mais il a en fait laissé très peu de portes ouvertes pour l'évolution du texte au Parlement, mis à part sur l'intéressement des salariés.
Marie Viennot, au-delà de la partie plan de relance, les dépenses des ministères s'inscrivent globalement en hausse de 3,8%. Les 3 grands gagnants sont la justice, dont le budget va gagner 600 millions, l'intérieur et les armées. Mais la culture va elle aussi disposer d'un budget en hausse. Anne Lamotte, vous êtes au ministère de la Culture, où Roselyne Bachelot se réjouit. Elle qualifie d'exceptionnel le budget 2021.
Tout sourire en effet, Roselyne Bachelot qui souligne des moyens financiers sans précédent pour son ministère. 167 millions d'euros de plus pour la culture en 2021. Ça représente une hausse de près de 5% par rapport à 2020. Mais c'est sans compter le plan de relance, Aurélie. Si on ajoute le plan de relance et les moyens exceptionnels qui seront injectés à la musique, au cinéma, à l'audiovisuel et au théâtre, on arrive à un total de 1,25 milliard d'euros de moyens supplémentaires pour la culture l'année prochaine. C'est le double de cette année. Avec sur le podium des préoccupations de Roselyne Bachelot, un budget en hausse de 8,5%, la démocratisation de la culture et surtout, dit-elle, le décloisonnement des pratiques, faire en sorte notamment que les jeunes consomment de la culture au-delà de leur téléphone portable. Elle répète que 20 millions d'euros supplémentaires seront mis sur la table pour développer, vous savez, le fameux Pass Culture, testé pour l'instant dans seulement 14 départements. Elle veut que ça se généralise et elle veut que ça marche, Roselyne Bachelot, qui souhaite aussi mettre le paquet, entre autres, sur l'entretien et la restauration des monuments historiques. Vous savez qu'un plan cathédrale est lancé pour sécuriser les 87 cathédrales que possède l'État. 130 millions de plus l'an prochain, plan de relance compris. Mais attention aux dérives, prévient aussi la ministre, qui confirme, par exemple, que le chantier du Grand Palais à Paris, 466 millions d'euros, est revu à la baisse. Aurélie, on va faire plus écolo, plus sobre. Donc oui, au projet ambitieux, conclut la ministre, mais non au chantier, je cite, pharaonique.
Anne Lamotte en direct du ministère de la Culture. Jean Castex recevra demain matin les représentants de l'hôtellerie, des cafés et de la restauration. Le Premier ministre va s'efforcer de rassurer les professionnels du secteur très remontés contre les restrictions et fermetures imposées. Dès ce soir, par exemple, en Haute-Garonne, les bars doivent fermer à 22h et les restaurants ne peuvent plus servir d'alcool fort après la même heure. Les cafetiers restaurateurs ont l'impression d'être des boucs émissaires. Ils demandent au préfet de Haute-Garonne des aménagements et ils comptent aussi saisir la justice, Stéphanie Iglesis.
Bar fermé à 22h, restaurant à minuit et 1h le week-end à Toulouse et en Haute-Garonne, les professionnels ont l'impression de payer pour tous ceux qui ne respectent pas les gestes barrières en dehors de leurs établissements. Jérôme est restaurateur à Blagnac.
Quand le début juin, ils nous ont demandé d'ouvrir avec des contraintes. Ça a un coût. Moi, je ne donne plus les cartes, j'ai des sets de table. Ça m'a coûté 25 000 euros pour passer entre mes cartes dessert, mes cartes pour toute la saison. J'ai acheté des plexis. Mon personnel a le masque, travaille en cuisine avec le masque, a des visières. On a acheté tout ce qu'il fallait. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? C'est comme un gosse. On vous a dit de faire quelque chose et vous ne serez pas puni. On a fait quelque chose, on est puni.
Quant à Philippe Belot, vice-président de l'UMIH en Haute-Garonne, il veut saisir la justice.
Ce sont des arrêtés qui, d'une certaine façon, sont contraires à nos libertés fondamentales, puisque la Constitution nous reconnaît le droit de travailler, le droit de nous déplacer, le droit d'agir aujourd'hui et le droit d'entreprendre. Et les arrêtés préfectoraux et les décisions du gouvernement sont totalement contraires à nos libertés fondamentales.
Une réunion de concertation a été arrachée demain avec le préfet de Haute-Garonne qui explique par avance qu'il ne peut qu'appliquer la réglementation nationale.
Stéphanie Iglesis à Toulouse. Un recours a été déposé hier par Renaud Muselier contre l'arrêté préfectoral ordonnant la fermeture pour 2 semaines des bars et des restaurants à Aix-en-Provence et Marseille. Il sera examiné demain par le tribunal administratif de Marseille. Le président LR de la région PACA est pourtant relativement satisfait ce soir, mais pour une autre raison. Il a été reçu à Matignon avec les autres présidents de conseils régionaux, reçu par Jean Castex pour évoquer le plan de relance et pour signer un accord de partenariat. Renaud Muselier au micro d'Antoine Marette.
C'est un changement de méthode qui est très impressionnant. Et alors c'est la raison pour laquelle tout le monde est là d'ailleurs. Parce qu'il y a une forme de contrat de confiance sur une démarche qui est bloquée par un calendrier très urgent, très rapide. Et nous avons, nous, la capacité d'action beaucoup plus agile, nous, les régions, que l'État. Aujourd'hui, on a surtout travaillé sur le plan de relance, le fait que vous avez pour la première fois, et c'est historique, sur le plan politique, la totalité des régions de France et les Outre-mer qui sont représentées, pour faire en sorte que le volet économique, le volet des transports, le volet de l'université, le volet de l'aménagement du territoire, en fait, tout ce qui dépend de nos compétences soit traité dans les 100 milliards, plus les fonds européens, plus les fonds structurels, que nous avons la capacité d'agir sur le volet économique qui doit éviter la crise sociale.
Pour plus de transparence, le gouvernement s'engage à publier quotidiennement l'ensemble des indicateurs mesurant l'évolution de l'épidémie de Covid-19. Il espère ainsi faire mieux comprendre pourquoi des mesures plus restrictives sont prises dans certains territoires, en donnant par exemple le taux d'incidence sur les personnes âgées et le taux d'occupation des réanimations. Bonsoir Tara Schlegel.
Bonsoir.
Parmi les remontées d'informations qui sont guettées, ces fameux clusters ou foyers de transmission du virus, que nous apprennent-ils exactement ?
Alors les clusters, la définition en est simple, Aurélie, c'est quand il y a au moins 3 cas de Covid avérés ou probables sur 7 jours dans un lieu précis. Les médecins généralistes, depuis la fin du confinement, font remonter ces cas aux ARS et à Santé publique France, qui mobilisent à leur tour leurs équipes pour retrouver les cas contacts et estimer s'il y a ou pas un cluster. Ces foyers sont classés par niveau de criticité, autrement dit, de risque de transmission du virus, et les autorités en sont informées. Santé publique France établit une carte des clusters. Dans son dernier bilan hebdomadaire, en semaine 38. On apprend ainsi qu'il y a encore en ce moment 899 clusters en cours d'investigation sur les 2442 signalés depuis le mois de mai. On peut aussi connaître les foyers épidémiques par type de collectivité. Les entreprises, hors établissements de santé, abritent 22% des clusters en ce moment. Le milieu scolaire, de l'école à l'université, 32%. Les crèches, seulement 3%. À noter que les bars et les restaurants ne figurent pas en tant que tels dans cette liste-là. Mais en page 17 du bilan hebdomadaire, quand les entreprises sont regroupées par secteur, on lit qu'il y a 50 clusters dans la restauration en ce moment, dont un cinquième ont une criticité élevée, contre 150 clusters par exemple dans ce qui s'appelle les administrations publiques, avec une criticité de 18%. Et 35 clusters dans l'industrie alimentaire, mais là la moitié des clusters sont jugés très actifs. Alors dans sa propre synthèse, Santé publique France note qu'en ce moment, les clusters à criticité la plus élevée sont surtout dans les EHPAD, chez les communautés vulnérables, gens du voyage, migrants, et dans les établissements de santé, à savoir les hôpitaux, etc.
Tara Schlegel. Le procès des attentats de janvier 2015 se poursuit avec l'examen à partir de cette semaine des faits reprochés à chacun des 14 accusés et des liens qu'ils ont pu entretenir avec Amédée Coulibaly et les frères Kouachi. Aujourd'hui, Florence Turm, la cour d'assises spéciale a auditionné plusieurs enquêteurs.
L'analyse de la téléphonie des frères Kouachi n'a pas vraiment apporté d'éléments nouveaux aux enquêteurs, si ce n'est de confirmer leur grande proximité. Ils disposaient chacun d'une ligne mobile. En revanche, Amédée Coulibaly avait ouvert pas moins de 17 lignes téléphoniques sous différentes identités, avec au cours des 4 mois précédant l'attentat des centaines de communications, appels ou SMS avec 4 des accusés présents dans le box. Nézar Pastor Alouatik, Willy Prévost, Amar Ramdani et Ali Reza Polat. Leur nom vient d'être prononcé pour la première fois dans l'enquête, 4 correspondants habituels qui vont devenir des correspondants exclusifs à l'approche des actions menées par Amédée Coulibaly. Et au fur et à mesure que l'enquêtrice chargée de la téléphonie détaille les échanges et les bornages, Ali Reza Polat, le principal accusé, s'agite et proteste. Aux documents qui s'affichent sur l'écran se superpose la probabilité des rencontres avec le tueur de l'hypercacher. Amédée Coulibaly avait monté une escroquerie au financement automobile, achat de plusieurs voitures à crédit grâce à de faux bulletins salaire, véhicule revendu 2 mois plus tard, un prix attractif à des particuliers, ce qui va lui permettre d'acheter l'arsenal retrouvé dans le supermarché, l'appartement conspiratif loué à Gentilly et même, il le dit lui-même dans la vidéo de revendication projetée à l'audience, de donner quelques milliers d'euros à Chérif Kouachi. Et compte tenu du nombre d'armes, pistolets, fusils d'assaut, explosifs, gilets pare-balles découverts par les enquêteurs, le policier de la brigade criminelle s'interroge à la barre sur les zones d'ombre et les points d'interrogation qui subsistent. Peut-être quelqu'un devait-il se joindre à lui. Amédée Coulibaly n'avait pas forcément vocation à passer seule à l'action.
Merci Florence Turm. Je rappelle que l'on peut retrouver vos chroniques judiciaires quotidiennes sur franceculture.fr. L'escalade des combats au Nagorno-Karabakh préoccupe l'Union européenne qui juge toute ingérence inacceptable. Mais alors que les combats se poursuivent dans la région, opposant séparatistes soutenus par l'Arménie et forces azerbaïdjanaises, le président turc Recep Tayyip Erdogan réclame la fin de l'occupation arménienne, affichant ainsi un soutien sans faille à Bakou. On retrouve Anand Lauer à Istanbul.
Dans son premier discours depuis la reprise des combats dans le Haut-Karabakh, Recep Tayyip Erdogan n'a pas appelé une seule fois à l'apaisement et à un cessez-le-feu. Au contraire, le président turc a rappelé que son pays était prêt à soutenir, par tous les moyens, je cite, « le pays frère et ami qu'est l'Azerbaïdjan ».
Le temps est venu pour que cette crise qui a commencé avec l'occupation du Haut-Karabakh prenne fin. Aussitôt que l'Arménie aura quitté le territoire azerbaïdjanais qu'elle occupe, la région retrouvera la paix et la sérénité.
Rien d'étonnant à cette prise de position. La Turquie est le plus proche allié de l'Azerbaïdjan et les deux États considèrent former une seule et même nation. À l'inverse, les relations diplomatiques entre la Turquie et l'Arménie sont inexistantes et la frontière entre les deux pays est fermée depuis le début des années 1990, précisément en signe de soutien à Bakou dans le conflit du Haut-Karabakh. Recep Tayyip Erdogan s'en est ensuite pris aux 3 médiateurs du groupe de Minsk, la Russie, les États-Unis et la France, accusé d'avoir tout fait pour ne pas résoudre ce conflit depuis 30 ans. Le président turc a donné entièrement raison à l'Azerbaïdjan.
L'Azerbaïdjan vous avait demandé de résoudre ce problème. À qui appartiennent les territoires sous occupation? À l'Azerbaïdjan. Estimant que l'heure des comptes était arrivée, l'Azerbaïdjan n'a pas eu d'autre choix que de prendre les choses en main.
La Turquie, par la voix du porte-parole du parti au pouvoir, a en revanche fermement démenti les accusations de l'Arménie qui faisait état de l'envoi par Ankara d'armements et de mercenaires dans le Haut-Karabakh.
De son côté, l'Arménie a saisi d'urgence la Cour européenne des droits de l'homme pour demander des mesures provisoires à l'encontre de l'Azerbaïdjan. Emmanuel Macron est arrivé cet après-midi à Vilnius, première étape de son voyage dans les pays baltes. Cette visite présidentielle est très attendue, notamment par les Biélorusses installés en Lituanie. C'est une communauté d'environ 40 000 personnes largement acquise à l'opposition au président Loukachenko et qui attend du président français des gestes forts, Louise Baudet.
À 30 km à peine du centre-ville de Vilnius, la frontière avec la Biélorussie, où la famille et les amis de Denis Kouchinski ont manifesté hier encore. Lui est arrivé en Lituanie pour ses études il y a 8 ans. Il y travaille désormais et attend beaucoup de la visite du président français, qui a certes déclaré hier qu'Alexandre Loukachenko devait partir, mais cela ne suffit pas.
Il doit partir quand ? Tout de suite ? Plus tard ? Selon quelle modalité ? Ce qu'il faut, c'est une proposition concrète pour la transition politique. La visite du président français est extrêmement importante pour la Biélorussie. On attend de lui avant tout qu'il rencontre Svetlana Tikhanovskaya, qu'il la reconnaisse comme légitimement élue en Biélorussie. Et on attend de lui des déclarations plus fortes que celles d'hier.
Prudence en revanche quant à l'autre enjeu de la visite d'Emmanuel Macron, le dialogue qu'il continue d'entretenir avec Vladimir Poutine. Puissant voisin russe, redouté par les pays baltes qui craignent pour leur souveraineté. Emmanuel Macron est trop conciliant avec Moscou, dit-on ici. Mais les opposants biélorusses préfèrent ne pas s'étendre sur le sujet. Pas question de se fâcher avec la Russie, sans qui rien ne peut se faire dans la région. Notre lutte n'est pas anti-russe ou pro-européenne, disent-ils. Elle est pour la Biélorussie.
Et c'est bien confirmé. Emmanuel Macron va rencontrer demain l'opposante biélorusse Svetlana Tsikhanouskaya, réfugiée en Lituanie. Le président régional de la Catalogne, l'indépendantiste Quim Torra, vient d'être destitué. La justice espagnole lui reproche d'avoir désobéi à la commission électorale en refusant d'enlever des pancartes de soutien à ses camarades emprisonnés en pleine campagne électorale. La région se dirige donc à moyen terme vers des élections anticipées, Mathieu de Taillac.
Tout ça pour une pancarte, c'est en substance le sentiment de tout le monde en Catalogne et dans le reste de l'Espagne, et ce, que l'observateur soit indépendantiste radical ou partisan farouche de l'unité du pays. Les premiers s'indignent que la liberté d'expression de leur président soit entravée, que la solidarité avec les indépendantistes en prison leur soit refusée. Les seconds s'étonnent qu'un élu ait pu mettre son fauteuil en jeu pour défendre contre vents et marées une banderole qui, les juges le disent, portait atteinte à la neutralité de l'administration. La Cour suprême, en confirmant la décision prise en première instance par un tribunal catalan, qualifie l'attitude de Torra de résistance catégorique, réitérée, caractérisée et obstinée, et rappelle que le devoir de neutralité des administrations est plus exigeant encore en période électorale. Torra devra abandonner son fauteuil dans les prochaines heures ou les tout prochains jours. Il sera remplacé par son vice-président, Pere Aragonès, lui aussi indépendantiste, mais appartenant à une autre formation, ERC de gauche, alors que le parti de Torra, Junts per Catalunya, représente l'indépendantisme de droite. Les deux grandes forces politiques sécessionnistes, qui représentent grosso modo la moitié de l'électorat, se sont mises d'accord pour réduire le rôle d'Aragonès à celui d'un président par intérim, en attendant la tenue d'élections régionales anticipées fin janvier ou début février. Des manifestations de protestation contre le verdict sont prévues dès ce soir.
Mathieu de Taillac à Madrid pour France Culture. Aux États-Unis, Donald Trump et Joe Biden s'affronteront demain dans l'Ohio. Ce sera le premier débat de la campagne présidentielle. Pour l'instant, c'est l'heure des préparatifs et le sujet qui occupe toutes les conversations, c'est la petite bombe que le New York Times a publiée hier soir. Le quotidien a en effet enquêté sur deux décennies de déclarations fiscales de l'homme d'affaires devenu président et sa conclusion est terrible. Donald Trump ne paye quasiment jamais d'impôts fédéraux et il est très en d'été. Reportage de Grégory Phillips à Cleveland.
Devant la Case Western Reserve University, les grandes chaînes américaines de télévision finissent d'installer leurs camions satellites et les supporters des deux camps, démocrates et républicains, viennent humer l'ambiance comme avant un match de boxe. Mais la feuille d'impôt de Trump est au cœur de toutes les conversations. Brad porte un t-shirt Joe Biden.
Doesn't surprise me.
Ah, je ne suis pas surpris. Ça fait longtemps qu'il refuse de publier ses déclarations d'impôts. Ok. C'est un peu étrange que ça sorte maintenant, mais bon, pour quelqu'un qui se prétend être un cador des affaires, Il semble que ce ne soit pas le cas. Les Américains sont en train de le comprendre. Steve fait partie aux États-Unis des rares indécis, et c'est pour ça qu'il attend avec impatience le débat de demain soir. Mais il accorde une importance toute relative aux révélations du New York Times. Pour moi, ça ne changera pas grand-chose. Le système est fait comme ça, corrompu. Les riches peuvent embaucher des avocats qui savent comment contourner le fisc. Personnellement, je ne vais pas reprocher à Trump d'utiliser le système. La fiscalité n'était pas au programme des 6 thèmes prévus pour le débat, mais il y a de fortes chances pour que le candidat démocrate, qui pour l'instant n'a pas commenté ces informations, garde des munitions pour demain soir et mette sur la table cette question de la feuille d'impôt de Trump.
Grégory Phillips à Cleveland, Ohio. On revient en France pour la météo. Demain mardi, le temps restera couvert sur la moitié nord avec de la pluie de la Bretagne et la frontière belge. Plus au sud, le soleil dominera. Il fera de 4 à 14 degrés le matin, entre 15 et 20 degrés l'après-midi sur la moitié nord, de 17 à 23 au sud. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.